C'est quand la dernière fois que vous avez entendu de la musique populaire en allumant votre radio? C'est quand Michael Jackson était encore noir? The Cure?
J'essaie d'écouter les infos. J'aimerais bien savoir si ta joyeuse bande de copains de Camden fait la une.
Vous écoutez les infos?
T'as un problème avec les infos aussi?
Ah ouais, moi j'ai un méchant problème avec les infos. Écoutez bien, l'information est totalement manipulée.
Canu Info.
Radio Canu, 102.2.
Bonjour.
Ah, bonsoir.
Bonsoir.
C'est l'heure du Canu Info.
Les Canu Info.
Canu Info.
Du mercredi. Bonsoir et bienvenue dans les Canu Info. Aujourd'hui, on va vous parler des accompagnateurs et accompagnatrices des élèves en situation de handicap, autrement appelés les AESH, qui, confinés comme déconfinés, sont toujours oubliés. Ce sera l'interview de Anne. Puis on reviendra sur la radio d'ici dans le PILA qui est attaquée avec une interview de Lauriane, animatrice de Radio d'ici. Et puis un rapport de l'INED sur les violences sexuelles subies par les femmes en situation de migration. En terminant par les Français qui peuvent offrir des vacances aux soignants et aux soignantes, le gouvernement, lui, leur offrira des médailles. Voilà, et tout de suite, on commence par les brèves. En République démocratique du Congo, il n'était pas question de fêter le 1er mai pour les travailleurs de la mine de l'entreprise Comus. Depuis plus d'un mois, ils sont en confinement total sur leur lieu de travail et ils ont signé un engagement pour 3 mois. Ce sont plusieurs entreprises minières qui ont décidé de protéger, entre guillemets, de cette façon leurs salariés en les confinant sur leur lieu de travail. Ceux de l'entreprise Comus témoignent des conditions de vie désastreuses. Ils passent la nuit dans des containers, les sanitaires sont en mauvais état et ils sont mal nourris. Tout contact avec l'extérieur est interdit, y compris pour les jours fériés, y compris avec sa famille. Le contact virtuel, pourquoi pas, tant que les mineurs ne parlent pas de leurs conditions de vie, puisqu'ils ont signé un acte d'engagement leur interdisant de communiquer sur la vie dans le site de confinement, sous peine de sanctions.
Willy Schren, c'est qui Willy Schren? C'est le président de la Fédération des chasseurs. Et ben Willy Schren a, dans une vidéo Facebook Live, a proposé de piéger les chats pour protéger la biodiversité. Les chats qui se trouveraient à plus de 300 mètres des habitations, il faudrait que les chasseurs mettent des pièges pour les buter. Ma foi, un président de la Fédération des chasseurs qui protège la biodiversité, ça a principalement, premièrement, l'idée de commencer par buter des animaux pour protéger la biodiversité. Willy Schren, si vraiment tu veux protéger la biodiversité, le mieux que t'aies à faire, c'est de te foutre en l'air, toi et tous tes congénères, chasseurs.
Comme nous en informe le blog Lutte en Or, pour Florian Thieffry, conseiller municipal à LM et candidat macroniste pour ces mêmes élections municipales avortées, les affaires sont les affaires. Alors que le port du masque devient fortement conseillé, voire obligatoire, Florian Thieffry met en application les valeurs de la Startup Nation et lance son entreprise de création de masques, Mascousu, c'est son nom. Après avoir expliqué que le masque ne servait à rien, pour finalement le rendre quasi obligatoire, La République En Marche, sous la forme de cet élu d'LM, ne perd pas le nord. Au prétexte d'une qualité irréprochable et d'une fabrication 100% française, le masque est vendu 10 euros l'unité. Selon les revendeurs, on va même jusqu'à 48 euros les 4 masques, soit 10,20€ pièce, donc. Alors que son poste d'élu pourrait pousser Florian Thierry à lancer d'autres initiatives, comme la distribution gratuite de masques à sa population, comme l'ont fait certains, son credo est plutôt de se créer une clientèle bourgeoise pour des masques qui, je cite, « préservent l'artisanat couturier des Hauts-de-France ». En vrai professionnel de l'opportunisme, son CV LinkedIn est à jour, puisqu'on peut y lire « directeur associé de la masque Mascousu » depuis avril 2020.
C'était aujourd'hui le premier conseil des ministres après le confinement. C'est la première fois que les ministres ont fait un conseil des ministres en se voyant directement. Alors, à l'heure où j'enregistre ça, puisque nous, à Canu, par contre, on continue à ne pas venir dans... Enfin, en tout cas, nous, le Canu Info du mercredi, on continue à ne pas venir dans les studios. À l'heure où j'enregistre ça, je ne sais pas encore ce qui est ressorti de ce conseil des ministres. Mais on peut être méfiant, parce qu'il est annoncé que ce conseil des ministres serait entièrement consacré à l'épidémie. Or, la dernière fois que ce gouvernement a fait un conseil des ministres entièrement consacré à l'épidémie, c'était un conseil des ministres exceptionnel qui s'était tenu un samedi, le samedi 29 février, complètement sur le coronavirus. Et quand ils sont sortis, qu'est-ce qu'ils ont dit ? Qu'ils allaient utiliser le 49-3 pour faire passer la réforme des retraites. Alors aujourd'hui, où ils sont censés ne parler que de coronavirus, quelle saloperie ils vont réussir à pouvoir nous pondre ! Allez, c'est la fin du confinement, mais on se fait une dernière petite histoire de contrôle de flics pendant le confinement. Hein, ça se passait samedi dernier, ça se passait à la Guille. Et là, c'était une dame, une vieille dame handicapée qui marchait avec deux béquilles et qui, ma foi, sortait d'une boucherie halal. Les flics interviennent, lui demandent son attestation, elle en a une. Mais il se trouve qu'elle habite le Vieux-Lyon et que les flics considèrent que le Vieux-Lyon est à plus de 1 km de l'endroit où elle faisait ses courses. Et bah oui, alors elle a eu beau leur expliquer que pour trouver de la viande halal, elle devait sortir de ce kilomètre, parce que dans le Vieux-Lyon, il n'y a pas tellement de viande halal, hein, c'est quand même plutôt très très catholique comme quartier. Les policiers n'ont rien voulu savoir, ils lui auraient même conseillé de manger du poisson à la place de sa viande. Et voilà, alors bon, la dame en question, elle a eu son amende, mais elle l'a contestée, elle a même porté plainte pour abus de faiblesse et discrimination. Alors il faut quand même rappeler, dans toute cette histoire que je tire de rébellion, hein, il faut rappeler que cette histoire de 1 km, qu'on soit bien d'accord, c'était la distance à laquelle on avait le droit de sortir pour faire du sport, que pour les courses par contre, il n'y avait absolument pas de limite de distance, de la même façon qu'il n'y avait pas de conditions de ce qu'on achetait. C'est écrit sur l'attestation course de première nécessité, mais les trucs qui étaient globalement à vendre étaient considérés comme de première nécessité. Ça n'a jamais été aux flics d'en juger. Mais, ma foi, une loi un petit peu minuscule, un petit peu qui tient, comme dit Robillon, en 5 lignes, ça a l'air d'être compliqué pour les flics, puisqu'au bout de 2 mois de confinement, ils n'avaient toujours pas réussi à la prendre et à la comprendre. Alors voilà, où est-ce que c'est ça ? Ou est-ce que vraiment... Il n'avait toujours pas réussi à l'apprendre ou à la comprendre.
Alors, je m'appelle Anne, je suis AESH, donc accompagnante des élèves en situation de handicap. Je suis en CDI, ça fait 12 ans que j'exerce en tant qu'accompagnante.
Alors en collège, primaire, lycée ?
Je suis depuis quelques années dans le premier degré, donc maternelle, élémentaire, mais ça change d'une année à l'autre en fait. Je peux être amenée à intervenir comme tous les collègues, autant sur le premier degré que le second degré.
D'accord. Et vous êtes pour l'instant basée dans quelle région ?
Alors, je suis dans l'Ain. Mmh. Donc, je travaille sur 2 établissements.
D'accord. Et vos 2 écoles, pour l'instant, n'ont pas accueilli encore d'élèves ? Elles les accueillent jeudi ?
Voilà. Des 2 côtés, en fait, l'accueil démarre à partir de jeudi.
D'accord. Alors, j'imagine que vous avez gardé à peu près des contacts avec vos élèves pendant le confinement. Comment ça s'est passé le télétravail avec eux?
Alors en fait, pour tout vous dire, nous sur le département de l'Ain, comme sur les autres, de toute façon, ça a été général. Il y a eu un gros flou là-dessus au départ. On ne savait pas ce qu'on avait le droit de faire et de ne pas faire. Ça s'est un peu précisé le 20 mars quand le ministère de l'Éducation nationale a fait paraître une FAQ, donc qui avait valeur de circulaire, où il était indiqué que nous pouvions maintenir le lien sous autorité pédagogique de l'enseignant avec les élèves. Et la poursuite de la collaboration, elle était logiquement possible. Mais ça, ce sont des informations qu'on a obtenues en se renseignant les uns les autres. C'est-à-dire que on n'a eu aucun cadre de posé qui nous a été adressé sur ce qu'on sur notre rôle en fait.
D'accord.
Dans cette continuité pédagogique. Donc on a été laissé un peu sur ce plan-là, on a été laissé à l'abandon. Donc moi j'ai eu la chance en fait et j'ai la chance de collaborer et de pouvoir communiquer facilement avec les enseignants avec lesquels je travaille. Donc j'ai pu poursuivre la collaboration avec les enseignants et maintenir le contact aussi avec les élèves que j'accompagne. Mmh. Alors, comme j'accompagne deux élèves qui sont des élèves autistes, je les avais pas forcément au téléphone, hein, vous vous doutez bien, mmh. Mais c'était selon leurs envies, selon leurs besoins. Uniquement, ça a été de la démarche individuelle. Et il y a des collègues qui ont été complètement mis à l'écart. Mais en même temps, on a été oubliés par et mis de côté plus haut. Donc logiquement, et ben voilà, les choses comme elles descendent. voilà. Donc ça a été, ça n'a pas été forcément facile. Il y a beaucoup de souffrance. De collègues. Beaucoup de souffrance là pendant ce confinement par rapport à ça.
Et alors justement après le confinement, pour celles qui sont retournées à l'école dans les primaires, est-ce que vous savez à peu près comment ça s'est passé, le retour à l'école? Et du coup là, est-ce que cette fois vous avez été moins oubliée et réintégrée dans le processus de rentrée?
Alors, pour le retour à l'école, déjà, on n'apparaît pas dans le protocole sanitaire de réouverture des établissements.
D'accord.
Donc, le protocole sanitaire de réouverture des établissements, il est sorti en public, de façon publique, le 7 mai. Donc, on n'y était pas. Ça met un peu la couleur de ce qui s'annonce après.
Et pourtant, c'était prévu que vous retourniez à l'école.
Oui, on nous avait envoyé un mail nous disant que voilà, dès la pré-reprise le 11, on devait être présent, bon, voilà, dans les établissements.
Et alors, est-ce qu'après, vous avez été réintégré dans le protocole sanitaire?
Alors, les partenaires sociaux ont vivement réagi à ça. Et sorti lundi soir, donc le 11 mai. Donc, une fois qu'on avait repris notre travail, en fait, le 11 mai, l'après-midi, est sorti un protocole spécifique AESH, mais qui ne répond pas, en fait, vraiment aux problématiques. Il manque des éléments indispensables et il y a de grandes zones de flou.
Lesquelles, par exemple? Enfin, qu'est-ce qui manque?
Alors,
exactement
sur, bah, en fait, sur la protection des AESH et des élèves, est mentionnée la possibilité d'avoir des équipements supplémentaires, enfin de s'équiper de manière supplémentaire, sauf que c'est pas prévu dans le protocole spécifique, et donc c'est non fourni par l'Éducation nationale. Les gants, parce que c'est nécessaire au-delà du respect des gestes barrières, les blouses, parce que de par nos missions, il est nécessaire parfois d'avoir des gestes professionnels à proximité, donc les gants, la blouse, le gel hydroalcoolique à disposition, parce qu'en fait, nous, on peut en avoir besoin plus souvent que l'enseignant, et puis du virucide, parce qu'en fait, les lingettes virucides, nous, on est amenés, de par nos missions, à avoir besoin de désinfecter plus régulièrement l'espace de travail et le matériel qui est utilisé par l'élève.
Parce que vous avez plus de proximité avec les élèves que les enseignants, évidemment. Et vous êtes obligé de garder cette proximité pour faire un travail efficace.
En fait, oui, c'est la nature de notre fonction qui implique des gestes professionnels qui ne permettent pas d'être à plus d'un mètre de distance. Pour la guidance physique, quand elle est nécessaire, pour l'accompagnement dans les actes de la vie quotidienne, l'habillage, le déshabillage, l'échange, enfin voilà, on n'a pas la même proximité que les enseignants avec les élèves qu'on accompagne. Notre fonction, c'est d'amener les enfants à l'autonomie, mais pour les amener vers l'autonomie, il y a d'abord leurs besoins présents, et puis c'est un travail de longue haleine. On laisse pas un enfant... voilà, il y a une collègue qui a mis un message très fort hier, qui nous a dit, eh ben voilà, en fait, je ne devrais plus le changer. C'est-à-dire que toute la journée, il devrait rester avec une couche sale. Je suis censée ne plus lui ouvrir sa bouteille d'eau, alors que physiquement, il est pas en mesure de le faire. Et donc, si je ne lui donne pas d'eau, il n'est pas en mesure de s'hydrater.
Est-ce que vous avez d'autres retours comme ça d'AESH qui ont repris hier et qui sont peut-être un peu démoralisés par leurs conditions de travail ou pas, hein, ou qui ont eu des bonnes surprises peut-être?
Alors, ce n'est pas une question d'être démoralisé, c'est qu'on reprend déjà après avoir été à l'abandon pendant deux mois. Hein. Donc déjà, psychologiquement, c'est quand même assez difficile à vivre vu que on est déjà dans une fonction qui est globalement encore très méprisée. Hein. Et les retours que j'ai déjà, là, que j'ai eu sur les deux derniers jours, hein, c'est en priorité ce manque de matériel de protection, et j'ai pas encore parlé des masques. Et puis l'impossibilité de répondre de suite à une application des gestes barrières et le respect du protocole par les élèves eux-mêmes, en fait. Et ça prend du temps. Et ça, on l'impose aux adultes et aux enfants. Leur place à l'école, à ces enfants-là, elle est claire, nette et précise. Ils ont leur place au même titre que les autres enfants. Mais par contre, on ne tient pas compte des besoins à la fois des accompagnants et de ces enfants pour que ça se passe dans la bienveillance, dans le respect et au mieux pour tous.
Vous évoquiez les masques tout à l'heure, donc il y a eu plusieurs cas d'AESH qui n'ont pas trouvé de masque en arrivant pour elles, quoi, qui n'étaient pas prévus pour elles. Donc qu'est-ce qui se passe dans ces cas-là et comment ça se fait aussi?
Alors, comment ça se fait? Ben, parce que tous les AESH n'ont pas été comptabilisés dans les personnels, tout simplement. Donc du coup, il y a des établissements où il n'y a pas de masque pour les AESH, clairement. Voilà. Donc ça, c'est juste parce qu'ils n'ont pas été comptés. Mm-hmm. Mais ça, c'est toujours dans cette lignée, hein. Vous savez, il a été dit plusieurs fois et répété tout un coup il y a quelques jours, parce que comme il faut qu'on retourne dans les écoles, donc du coup, tout à coup, on réapparaît. Et il est redit que nous faisons partie intégrante de la communauté éducative, etc. Non, sur le terrain, non. Pas encore, non. Mm-hmm. Pas encore, et c'est pas gagné. Et les masques, le problème des masques quand même sur lequel il faut revenir, c'est que ce sont des masques grand public. Donc ce sont des masques qui ne protègent encore moins protégée, vu la nécessité de certains gestes professionnels à proximité de l'élève. De plus, il y a aussi des besoins en masque adapté avec une partie transparente. Et ça, ça paraît être le luxe, mais en fait, ça n'est pas du tout, parce que pour certains enfants, il y a certains élèves qui ont besoin de voir le mouvement des lèvres, hein, tout simplement, pour pouvoir communiquer et comprendre ce qu'on leur dit. Pour certains enfants, je n'ai pas encore le retour, mais je me demande comment ça va être possible concrètement pour que ça se passe bien pour les élèves malentendants, par exemple. Il n'y a rien qui a été anticipé spécifiquement au niveau des besoins des AESH et de leurs élèves. On a des masques grand public, point. C'est à notre employeur de veiller à la sécurité de ses personnels. Hein. Donc il est quand même assez incroyable et j'oserais même hors de question de nous demander de financer, comme on est en train d'induire là, nos blouses, nos gants. Non.
Eh bien, merci beaucoup. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter ?
Alors, je voulais quand même rajouter qu'il y a d'autres soucis qui sont urgents à voir et qui sont très problématiques. C'est au niveau des missions qui sont confiées là, mmh, aux AESH. Nous, on est présents en réponse à des notifications d'accompagnement pour les élèves qui sont délivrées par les maisons départementales des personnes handicapées. Donc nous, on travaille en tant qu'agent contractuel, on n'est pas fonctionnaire, mais on est là pour répondre à ça. Là, ça fait une dizaine de jours qu'il y a des mails qui arrivent, qui nous disent « bon, vos missions sont élargies, alors on ne sait pas trop, voilà ». Et là aussi, ça ouvre la porte à tous les abus, c'est-à-dire que on peut être tout dans l'école. Et
c'est-à-dire...
il est indispensable qu'il y ait des limites claires concernant nos missions qui soient posées et imposées au niveau national. Parce qu'il y a des endroits où, effectivement, on va continuer à pouvoir accomplir nos missions. Il y a des endroits où, en bonne intelligence, bien entendu, on va participer au respect du protocole sanitaire pour l'ensemble des élèves dans la mesure où on est disponible. Ça, c'est de la bonne intelligence. Mais après, il y a tous les abus, vu l'absence de clarté et de mission claire en cette période de reprise partielle, d'essai, entre guillemets. Et il y a tout un tas d'abus qui se mettent en place. Mais j'ai une collègue, clairement, et c'est loin d'être la seule, à qui on a dit que tu participeras à la désinfection des locaux. Mais voilà, il faut pas non plus que ça devienne tout et n'importe quoi. Et là, ce qui apparaît, c'est tout et n'importe quoi. On est des travailleurs pauvres, en fait, de l'éducation nationale. Mmh. En moyenne, c'est 750 euros par mois, hein, le salaire, hein. Et il est plus qu'urgent, donc c'est ce qu'on disait à l'instant, hein, de définir un cadre clair qui respecte leurs fonctions, leurs missions, et qui les protège. On ne peut plus être dans le « mais non, ils peuvent rester comme ça ». Ils ont vraiment besoin là d'un vrai statut au sein de l'éducation nationale qui soit valorisé et qu'on valorise concrètement leurs valeurs professionnelles. Il y a beaucoup d'AESH, il y avait déjà eu beaucoup de démissions, des démissions records, hein, sur le territoire pour la rentrée de septembre. Mm-hmm. Et là, ça va être, là, vu le nombre de retours qu'on a de gens qui disent bah, « c'est bon, ça a été la goutte d'eau, c'est la cerise sur le gâteau, je vais partir ».
All right.
Marianne, tu fais partie des bénévoles et animatrices de Radio d'ici à Saint-Julien-Molin-Molette dans le massif du Pilat, c'est-à-dire à mi-chemin entre Saint-Étienne et Annonay, plus ou moins. Et alors, vous avez eu une sorte de visite à la radio dans la nuit de samedi à dimanche dernier.
Oui, il y a eu donc une visite nocturne assez surprenante. Vers 6h du matin, il y a eu beaucoup de bruit dans la radio. Enfin, voilà. Et donc sur les lieux, visiblement, il y a quelqu'un, une ou deux personnes qui sont entrées et qui ont tagué les murs et complètement saboté et dévasté la radio avec un extincteur. Et l'extincteur, c'est très corrosif, donc sur le matériel électronique, ça a complètement tout détruit. Ils ont arraché aussi toutes les affiches. Et du coup, oui, il y a eu une croix navée et un 1488 qui ont été tagués sur le mur à l'entrée. Et voilà, ils sont aussi introduits dans un appartement, sûrement pour faire peur, on ne sait pas exactement.
Ah, dans un appartement où il y avait des gens?
Ouais, dans un appartement au-dessus, ils se sont introduits. La personne a été vue avec un masque. Et du coup, elle s'est enfuie en courant.
Alors, 1488, est-ce que tu pourrais nous dire ce que tu en comprends ou ce que vous en comprenez?
Eh ben, nous, on savait pas ce que ça voulait dire. Nous, on n'est pas très renseignés sur le fascisme. Mais 88, ça veut dire Heil Hitler. Et 14, visiblement, ce serait les 14 mots d'une citation, j'imagine, d'un discours d'un suprémaciste blanc américain. Voilà.
Ouais, une sorte de... oui, c'est ça, des sortes de codes secrets, peut-être un peu...
C'est un tag qui a déjà été vu dans la région.
Pour les auditeurs lyonnais qui connaissent pas forcément Radio d'ici, qu'est-ce que c'est comme radio et peut-être est-ce qu'on a des pistes sur pourquoi est-ce que les FAF en veulent à Radio d'ici particulièrement?
Eh ben, la radio ici, c'est une radio locale associative et la radio d'ici, elle se dit humaniste, écologiste et plutôt de gauche. S'il y a des émissions qui portent effectivement sur, les migrants, il y a eu des émissions sur les CRA, sur les centres de rétention administratif pendant le confinement, il y a eu aussi des émissions sur les migrants qui étaient faites par Radio Galère et rediffusées, la Radio Galère, radio de Marseille, et rediffusées sur la radio d'ici. Et du coup, c'est un peu les suppositions que la radio était visée pour ces raisons-là, parce que ça touchait ces sujets-là, mais voilà, c'est que des suppositions, c'est difficile de vraiment savoir. En tout cas, clairement, la radio était visée, quoi.
Vous avez aussi au moins une émission qui est en lien un peu régulier, un peu fort, avec une émission à nous de Radio Canu, FFF, avec l'émission oui. Martine Lilith et les autres, qui est l'émission féministe de Radio d'ici et qui est vraiment l'émission un peu sœur de Lilith, Martine et les autres.
Oui, tout à fait. Je sais pas si ça a un lien avec ça. En tout cas, elles ont réagi à l'attaque avec un communiqué qui est très bien par ailleurs.
Est-ce que vous avez un peu une idée de qui écoute Radio d'ici? Est-ce que c'est une radio très marginale? Est-ce que c'est une radio que beaucoup de gens écoutent? On est vraiment dans la campagne, quoi.
Alors c'est marrant comme question, parce que quand on demande aux gens qui tiennent la radio, ils ont du mal à nous dire qui écoute la radio et tout ça. Mais franchement, c'est une question difficile, j'en sais rien. J'ai l'impression que c'est quand même bien une radio de la région et que j'ai pas l'impression que ce soit forcément au niveau militant très très fort. Enfin, il n'y a pas que ça, quoi. C'est quand même assez varié les émissions qu'il y a à l'intérieur. Et voilà, ça a l'air touché quand même un public un peu large et pas uniquement militant fort, quoi.
Est-ce que vous avez eu des réactions de gens extérieurs à cette attaque, des réactions de solidarité ou peut-être le contraire?
Oui, visiblement énormément. Enfin, des personnes qui ont été, par exemple, appelées pendant le confinement pour des émissions, nous ont écrit tout ça. Il y a eu aussi toutes les autres radios associatives et les réseaux Antifa de la région aussi qui ont communiqué et apporté leur soutien moral et voilà, il y a des personnes aussi qui ont proposé du soutien matériel, comme France 3, par exemple, Région, ou des choses comme ça. Il y a eu évidemment des journalistes qui sont venus un peu pour prendre des photos et faire des articles dès le lendemain.
D'accord. Et, Et alors, si des gens qui nous écoutent ici à Lyon se sentaient un peu une envie de vous, soit de vous montrer de la solidarité, soit de vous fournir de la solidarité concrète, qu'est-ce qu'il y a à faire ?
J'ai l'impression que déjà, juste envoyer des mots à la radio, ça fait vraiment chaud au cœur pour les gens qui sont loin. Et après, je crois que là, ce qui l'urgence, c'est de faire revivre la radio le plus vite possible et pouvoir à nouveau passer des messages de soutien. Et ici, à Saint-Julien, il va peut-être y avoir des choses un peu qui vont être mises en place dans les jours à venir pour apporter du soutien à la radio. Donc, je ne sais pas sous quelle forme encore, je ne peux pas trop en dire plus, mais... Oui, j'allais bien me voir sur les réseaux, j'imagine, réseaux mutuels et tout ça, ça sera diffusé, ce qui va se passer ici, quoi.
Parce que vous avez eu des grosses pertes de matériel financièrement, vous avez un peu chiffré ce que ça donne ?
Ah, j'ai pas les chiffres.
Mais même une idée,
c'est... super conséquent, parce que tout le matériel a été détruit, donc il n'y a plus rien du tout, quoi. Plus de micro, plus de table, de mixage, plus rien. Non, je vais juste dire qu'il y a les assurances, donc ça en soi, je pense que ça va aller matériellement, c'est juste dans la rapidité, ou je sais pas si la radio, parce que moi je fais pas partie du centre, quoi, de la radio, du siège associatif et tout ça, mais du coup, eux, je sais pas s'ils veulent servir ça très très rapidement, et dans ce cas, peut-être que du prêt de matériel, ça peut être envisageable.
De l'INED montre les violences subies par les femmes en situation de migration. Le rapport s'appuie sur une enquête menée par Parcours qui porte sur 74 structures de santé. Deux échantillons représentatifs ont été constitués. Le premier est composé de 405 femmes rencontrées dans les centres de santé de médecine générale et un autre groupe de 568 femmes vivant avec le VIH et suivies en hôpital. Pour le groupe rencontré en consultation de médecine générale, à leur arrivée, elles sont majoritairement en couple, 54%, et sont un tiers à avoir des enfants. Le temps médian pour avoir un titre de séjour d'au moins un an est de 3 ans. Pour le groupe suivi à l'hôpital pour une infection au VIH, elles sont moins nombreuses en couple, 45%, et sont plus nombreuses à avoir au moins un enfant, 53%. Concernant leur insécurité résidentielle et administrative, l'étude montre que pour les deux groupes, il est assez similaire. Un cinquième, environ 20% des femmes, déclarent avoir dû changer souvent d'hébergement. Plus de la moitié d'entre elles déclarent avoir été hébergées pendant au moins une année par un tiers. Et environ 40% des femmes ont déclaré avoir été au moins une année sans titre de séjour. Une femme sur cinq déclare avoir subi des violences sexuelles au cours de leur vie. Chiffre très élevé par rapport aux femmes non exilées, mais comparable à d'autres chiffres menés par d'autres études en France et en Europe auprès de personnes exilées. Une fois leur arrivée en France, elles sont entre 3,5% pour le groupe rencontré en médecine générale et 7,2% pour le groupe suivi à l'hôpital pour le VIH à avoir subi un viol. L'étude montre que les femmes ayant quitté leur pays pour des violences sont plus susceptibles d'être à nouveau victimes de violences, en l'occurrence de violences sexuelles. Les conditions de vie sont aussi un facteur qui expose grandement aux violences sexuelles après la migration. Le fait de devoir changer régulièrement d'hébergement, de passer d'un hébergement d'urgence à la rue, à une ou plusieurs nuits hébergées chez des connaissances, multiplie grandement ce risque. Là où les périodes pendant lesquelles une femme n'a pas de titre de séjour accroissent significativement le risque de subir un viol. En effet, durant cette période, les personnes se retrouvent dans l'incapacité d'avoir un travail stable et légal et un hébergement stable. Le fait d'être hébergé par une connaissance, un partenaire, un membre de la famille ne protège en aucun cas de ce type de violence. Au contraire, et de la même manière que les études portées sur la population en règle générale ont montré que dans l'immense majorité des cas, les femmes ayant subi des violences sexuelles connaissaient leurs agresseurs, pour les femmes en situation de migration, ce facteur est aggravé par la plus grande précarité d'habitat et leur précarité de situation administrative. Le rapport conclut donc que l'absence d'accès aux droits, que ce soit du droit au logement ou à un titre de séjour, fait courir un grand risque aux femmes réfugiées qui arrivent en France. Que la lutte contre les violences faites aux femmes doit prendre en compte la spécificité des femmes migrantes et que l'accès à un logement et à un titre de séjour sont des conditions indispensables pour exercer le droit de vivre sans violence et sans atteinte à leur santé.
Alors on est vraiment dans un monde très joli où tout le monde est trop sympa et heureusement on a un gouvernement qui, faute de savoir commander des masques et du gel avec moins de 2 mois de retard, sait en tout cas favoriser la solidarité. La solidarité entre les pauvres même, alors que sur ce sujet les membres de La République En Marche ne sont pas trop concernés, c'est vraiment la preuve qu'ils et elles sont hyper sympas. Bref, un député LREM l'a proposé, enfin il y a une vilaine polémique qui tend à laisser penser qu'il aurait piqué l'idée à un député LR, mais ne pinaillons pas. Un député LREM l'a donc proposé, une centaine de ses camarades l'ont suivi, ils et elles ont écrit ensemble une lettre au gouvernement et Muriel Pénicaud, dans sa mansuétude, dans sa grande générosité, s'y est dite favorable. Il reste encore quelques détails techniques à régler, peut-être une loi à voter, mais enfin, les Françaises et les Français devraient bientôt pouvoir offrir une journée de congé aux soignantes et aux soignants pour les remercier de leur boulot, de leur sacrifice et de tout ce qu'ils et elles ont fait, on peut le dire, pendant l'épidémie. Alors l'idée, c'est donc que vous bossez un jour de plus dans votre entreprise et une infirmière aura un jour de vacances en plus que vous lui aurez donc offert grâce à un jour de travail que vous aurez fourni. Christophe Blanchet, le député qui a eu cette idée, enfin, ou qui l'a piqué, on ne sait pas, mais c'est du détail, Christophe Blanchet, donc, s'est dit que les gens qui applaudissent les soirs à 20h ressentaient sans doute une certaine frustration de ne pas savoir comment aider davantage ces infirmières, ces toubibs, ces aides-soignantes qui ont été les héros et les héroïnes du quotidien ces 2 derniers mois. Et il a donc soumis cette généreuse proposition. Alors, vous allez me dire, comment vous qui bossez à la chaîne chez Renault, vous qui êtes égouttier, qui êtes maraîchère, vous qui bossez à la caisse d'un supermarché, si vous bossez un jour de plus, comment est-ce que ça remplacera le boulot d'une infirmière aux urgences? Bon, alors là, je dois dire que je vais pas vous aider. Moi non plus, j'ai lu plusieurs articles à ce sujet, hein, mais j'ai pas vraiment réussi à comprendre ça. Mais c'est que vous et moi, on n'y connaît rien en économie, parce que tous les journaux qui en parlent semblent trouver ça tellement complètement naturel, alors on va admettre. Hein. Le boulot, disons que c'est pas vraiment ce qui sert à faire quelque chose, c'est surtout ce qui produit de la valeur. Donc une journée à 100 euros, c'est une journée à 100 euros, et basta. Non, le vrai avantage de tout ça, c'est que ça permet de ne pas toujours tout attendre de l'État, d'arrêter d'être, de nous auto-infantiliser, enfin, ou d'être infantilisé. Cette fois-ci, c'est bien l'idée de faire participer les gens, de les responsabiliser, de leur permettre de se mouiller vraiment. Les gens, c'est qui? Les gens, c'est vous, c'est moi. C'est pas les actionnaires, hein, à qui on va pas proposer, a priori, de payer des congés avec leurs dividendes. Non, non, c'est bien à nous que les députés LREM vont faire ce beau cadeau, une opportunité de nous montrer solidaires. Alors, pas question non plus, bien sûr, que l'État revalorise les salaires des infirmières. Pour ça, il y a une prime, hein, il y a eu une prime, une bonne fois pour toutes, 1500 boules comme ça, pour le Covid, et puis ça suffira. Pas question non plus d'embaucher du personnel, hein, comme le demandent les gens qui bossent aux urgences depuis plus d'un an, ni de créer des lits, qui est aussi une demande un peu récurrente depuis un bon petit moment. Déjà, c'est la crise, on va pas encore puiser dans les caisses de l'État. Non, c'est vous et moi qui devons nous mouiller, faire quelque chose maintenant, offrir un jour de congé. Ou alors peut-être, remarquez, moi aussi, moi je suis pas député, mais j'ai peut-être une idée d'un truc qui ferait plaisir au personnel soignant, et qui est apporté demain pour vous et moi. Ça serait un beau crachat dans la gueule du prochain militant LREM qu'on croisera. Et notre présence massive aux prochaines manifs pour la défense de l'hôpital public. Allez, dernière minute, un petit ajout à l'information précédente. Un hommage aux soignants sera rendu lors de la fête nationale le 14 juillet prochain. C'est ce que nous a dit Sibeth Ndiaye, qui a indiqué que cette célébration serait une occasion supplémentaire de manifester l'hommage de et la reconnaissance de la nation à tous ceux qui se sont engagés dans la lutte contre le Covid-19. Elle nous a encore dit que le président de la République a souhaité une reconnaissance qui soit également symbolique de la nation tout entière envers ceux qui se sont mobilisés dans cette épidémie et continuent à le faire. Décidément, le gouvernement est fourmille de super bonnes idées pour remercier les soignants de toutes les manières qui risquent de ne pas leur coûter un sou et de ne pas changer pour un iota leur politique vis-à-vis de l'hôpital public.
Radio Canu.
C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi. C'était le Canu Info, c'était le Canu Info, c'était le Canu Info du mercredi.
Retrouvez le Canu Info tous les jours de la semaine de 19h à 20h sur le 102.2 et en réécoute et en podcast sur le site de la radio www.radiocanu.org.
La plus rebelle des radios.